Laudetur Jesus Christus.
Le pape François, après avoir consulté les évêques du monde entier, a décidé de réformer l'usage du missel de 1962. Dans un motu proprio publié hier, il révoque Summorum Pontificium, le décret publié par Benoît XVI, libéralisant la messe en latin. Explication juste après les titres. Les inondations en Allemagne et en Belgique ont fait plus de 150 morts. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Témoignage dans quelques instants de l'évêque de Liège, Monseigneur Delville, dont le diocèse est également touché par les pluies diluviennes. Au sommaire également, le Liban, où des affrontements entre l'armée et des manifestants ont fait plusieurs blessés à Tripoli, dans le nord du pays, au lendemain de l'annonce de renoncement du premier ministre désigné Saad Hariri. Dans notre dossier, nous resterons au Liban, où s'est rendu la semaine dernière Monseigneur Lalanne, l'évêque de Pontoise en France. Il est à l'initiative d'un jumelage entre son diocèse et le vicariat de Sarba et Jounieh, un projet de solidarité et de fraternité spirituelle.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour. Traditionis Custodes, c'est le nom du nouveau motu proprio rendu public hier. Un texte qui révoque Summorum Pontificium, le décret publié il y a 14 ans par Benoît XVI, libéralisant la messe en latin sous le nom de rite romain extraordinaire. Aujourd'hui, François édicte de nouvelles normes sur l'usage du missel de 1962 avec un encadrement très précis. Les détails des principales mesures avec Manuela Figi.
On note tout d'abord une responsabilité accrue de l'évêque. C'est lui le modérateur de la vie liturgique diocésaine. C'est donc à lui qu'incombe d'autoriser ou non le recours au missel de 1962, selon les directives du Saint-Siège. À partir de maintenant, les messes suivant l'ancien rite ne seront plus dites dans les églises paroissiales. Si l'évêque donne son accord, c'est lui qui indiquera l'église, les jours des célébrations et désignera le célébrant. Les lectures, quant à elles, ne seront plus en latin, mais en langue vernaculaire. Concernant les prêtres ordonnés après la publication de ce motu et qui voudraient célébrer en rite romain extraordinaire, ils doivent pour cela adresser une demande formelle à l'évêque et lui-même consultera le siège apostolique. Les prêtres qui célèbrent déjà ainsi doivent eux demander la permission à leur évêque de continuer. Dans une lettre, le pape s'explique sur les raisons qui ont présidé à ce choix difficile. Il constate en effet avec chagrin et inquiétude que le désir d'unité manifesté par ses prédécesseurs et surtout Benoît XVI a été méprisé, que les concessions offertes par Summorum Pontificium ont été utilisées pour accroître les distances, construire des oppositions qui blessent l'Église, dit-il. Certains rejettent la réforme liturgique et plus généralement le Concile Vatican II qui l'a permis. Or, douter du Concile, c'est douter de l'intuition des pères qui ont travaillé cum et sub petro, et c'est donc douter in fine de l'Esprit-Saint. Le pape donc conclut solennellement « C'est pour défendre l'unité du corps du Christ que je me vois contraint de révoquer la faculté accordée » par mes prédécesseurs.
Manuela Figi, pour en savoir davantage sur ce motu proprio, rendez-vous à l'adresse vaticannews.va. L'Allemagne fait face à une catastrophe naturelle d'une ampleur inédite depuis plus d'un demi-siècle. Les inondations et glissements de terrain ont fait 133 morts dans l'ouest du pays et plusieurs personnes sont encore portées disparues. Près de Cologne, à Erfstadt, une partie d'un village s'est littéralement effondrée hier. Les pluies diluviennes ont également dévasté la Belgique voisine qui fait état de 20 décès. Un jour de deuil national a été décrété le mardi 20 juillet. Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, transmet un message de résistance et d'espérance tout en appelant à une prise de conscience plus profonde.
C'est un message d'abord de confiance, de résistance et d'espérance, de solidarité pour remercier toutes les autorités qui ont fait le maximum et tous les bénévoles qui se sont dépensés d'une façon extraordinaire au service de leurs voisins, de leurs familles. Les églises disponibles ou les salles paroissiales disponibles sont mises à la disposition des communes si nécessaire pour accueillir les personnes sinistrées. Je pense que mon message ce sera aussi quand même de réfléchir aux causes de ces situations. Nous avons vraiment vécu le déluge comme on le raconte dans la Bible. Je dirais qu'il y a un peu la colère du ciel comme Dieu qui se fâchait à l'époque de Noé, parce qu'on se dit quand même que ce dérèglement climatique c'est en partie dû à l'insouciance humaine et à des développements incontrôlés des technologies. Et donc, nous avons malgré tout une responsabilité. On a même une responsabilité dans la gestion de la prévention. Et je pense que notre société doit vraiment réfléchir, parce que sinon, nous allons nous trouver dans des situations qui iront de mal en pis, quoi.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Hier, le président français Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité à l'Allemagne, à la Belgique, ainsi qu'au Luxembourg et aux Pays-Bas également touchés par les inondations, garantissant une aide de Paris. Emmanuel Macron, qui était hier à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, pour y rencontrer les acteurs du tourisme, durement touchés par la crise sanitaire. Lors de ce déplacement, le chef de l'État français a visité le sanctuaire de la Cité Mariale, une première pour un président de la Ve République. Le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a été mis en examen hier. C'est inédit. Il a été inculpé dans l'enquête sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités d'avocat, au terme de près de 6 heures d'interrogatoire à la Cour de justice de la République. Le Premier ministre, Jean Castex, a fait savoir qu'il lui renouvelait toute sa confiance. Climat toujours fébrile en Afrique du Sud. Les violences de ces derniers jours ont fait 212 morts. Hier, lors d'un déplacement à Durban, le président Cyril Ramaphosa a dénoncé des troubles planifiés et coordonnés dans l'objectif de provoquer une insurrection et de déstabiliser le pays. Les premiers incidents avaient débuté au lendemain de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, condamné pour outrage à la justice. Ils se sont ensuite étendus dans le pays sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid. La situation est également tendue au Liban, dans le nord, à Tripoli. Des heures ont opposé hier pour la deuxième journée consécutive des manifestants à l'armée, faisant de nombreux blessés. Des violences au lendemain de l'annonce par le Premier ministre désigné, Saad Hariri, qu'il renonçait à former le prochain gouvernement. Les explications de Paul Khalife.
Les heurts les plus violents ont eu lieu dans le quartier à majorité alaouite de Jabal Mohsen à Tripoli, dans le nord du pays. Des habitants ont bloqué des routes dans ce secteur sensible, théâtre pendant des années d'affrontements armés avec les quartiers voisins à majorité sunnite. Des jeunes en colère ont fermé les routes menant au quartier et ont affronté l'armée à coups de cocktails Molotov et de pétards. Les heurts ont fait une quarantaine de blessés, dont 10 militaires visés par un jet de grenade. Des manifestants ont bloqué l'autoroute côtière à 20 km au sud de Beyrouth et ont attaqué les automobilistes. Des routes ont également été coupées à l'intérieur de la capitale et dans d'autres villes du pays. Cette flambée de violence a été provoquée par une nouvelle chute de la livre libanaise qui a atteint un bas historique ce vendredi, provoquant un dérèglement de la chaîne d'approvisionnement et un vent de panique au sein de la population qui craint une nouvelle flambée des prix et des pénuries de produits de consommation. Le chef de l'armée, le général Joseph Aoun, a dit s'attendre à une aggravation de la situation en raison de l'impasse politique et sociale dans laquelle se trouve le Liban. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Le Liban, ce sera le thème de notre dossier avec un projet porteur d'espérance, un jumelage avec un diocèse français, éclairage dans quelques instants. Un premier cas de coronavirus a été recensé au sein du village olympique, une annonce faite à moins d'une semaine de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo qui se dérouleront dans un contexte morose. La capitale japonaise fait face à une hausse des cas de contamination. L'état d'urgence sanitaire a été mis en place lundi dernier et ce jusqu'au 22 août. La Russie connaît-elle aussi une situation complexe, mais dès lundi, les moscovites pourront retrouver leurs bars et restaurants sans devoir présenter de code QR à l'entrée. Une décision dictée par la stabilisation du nombre de nouvelles contaminations, même si à l'échelle du pays, le nombre de morts de la Covid-19 reste à la hausse. Jean-Didier Revoin.
799, c'était hier le nombre le plus élevé de Russes décédés du Covid en 24 heures depuis le début de la pandémie. Les 25 000 nouvelles contaminations quotidiennes démontrent que la vague due au variant Delta ne reflue pas à l'échelle du pays, ce qui n'empêche pas les autorités moscovites d'alléger les mesures de restriction entrées en vigueur il y a 3 semaines. Dès lundi, les bars et restaurants de Moscou pourront à nouveau accueillir des clients sans exiger d'eux qu'ils présentent un code QR. Le maire a justifié cette décision par une stabilisation du nombre de nouvelles contaminations et une dynamique vaccinale positive. Il a passé sous silence la grogne des restaurateurs mécontents, dont un grand nombre ont préféré courir le risque d'être amendés plutôt que de faire respecter la règle. Il n'a pas évoqué non plus les problèmes rencontrés parfois pour obtenir ce fameux sésame, sans parler des personnes vaccinées avec d'autres vaccins que le vaccin russe, non reconnu par le système. Le respect des gestes barrières reste de mise. 70% des nouvelles contaminations sont dues au variant Delta. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
L'Église de France crée un nouveau pont avec le Liban. Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, est allé à la rencontre des chrétiens du Liban lors d'une visite du 7 au 10 juillet dernier dans le pays. Un déplacement qui avait pour objectif de poser les bases d'un jumelage entre son diocèse et le vicariat de Sarba et Jounieh. Ce projet doit permettre de nombreux échanges spirituels et initiatives de solidarité entre les catholiques du Val d'Oise en région parisienne et la communauté maronite de Sarba et Jounieh. Le pays du Cèdre est ravagé depuis 2019 par une crise politique, économique et sociale inédite, et le premier ministre désigné Saad Hariri a annoncé ce jeudi renoncer à former un gouvernement. Dans ce contexte particulièrement sombre, Mgr Lalanne dit avoir été touché par la joie de vivre et l'espérance du peuple libanais qui fait preuve d'une grande solidarité. C'est ce qu'il nous a confié lors de son passage dans nos locaux.
Dans les paroisses, j'ai été très frappé par le fait que la dimension de la solidarité et de la charité est vraiment vécue en acte. Et j'ai perçu combien, au Liban, la solidarité familiale est quelque chose d'essentiel. Et pour moi, quelque chose d'assez exemplaire. Et dans le jumelage que nous lançons avec le vicaire patriarcal de Sabra, un des points majeurs, ça va être les familles. Parce que je pense qu'on a à nous enrichir les uns les autres de nos pratiques, de notre pastoral, de la manière dont on prend soin des familles.
Quel peut être aujourd'hui le rôle de l'Église de France auprès du peuple libanais en grande souffrance, notamment à travers les jumelages?
D'abord, j'ai perçu combien il y a une tendresse pour l'Église de France. Et on va pouvoir faire des choses ensemble et faire un échange de dons, aider à développer les solidarités. Et ce qui est intéressant, c'est que Mgr Paul Juana m'a dit la première chose que j'attends d'un jumelage, c'est un jumelage spirituel, une fraternité spirituelle. Le nombre de fois que des personnes m'ont dit « priez pour nous », parce qu'on voit aussi qu'il y a une désespérance forte. En même temps, il y a un désir de s'en sortir. En même temps, il ne voit pas bien comment s'en sortir.
Comment le peuple libanais a-t-il accueilli les paroles du pape François le 1er juillet dernier lors de sa rencontre avec les leaders chrétiens du pays?
Tous ceux que j'ai rencontrés ont été extrêmement heureux d'être encouragés par le pape. Ce fait qu'il a annoncé qu'un jour ou l'autre, il viendrait visiter le Liban, vous ne pouvez pas savoir combien ça remplit de joie et d'espérance. Parce que humainement parlant, politiquement parlant, on se perçoit quand même, moi j'ai perçu que les issues sont difficiles. Ça suppose sûrement une conversion personnelle, des conversions pastorales, des conversions collectives, pour que ce ne soit pas les pouvoirs qui prennent le dessus sur le bien commun des uns et des autres.
La crise actuelle a contraint, a poussé de nombreux Libanais à quitter leur pays. C'est une grave question que vous avez évoquée avec les personnes que vous avez rencontrées.
Beaucoup perçoivent que l'horizon est bouché. Il y a une énorme question, surtout pour les jeunes. Tel ou tel m'a confié presque sub secreto que ses enfants, là, après le bac, eh bien, il faudrait qu'ils partent. Alors qu'ils savent bien que l'importance que les enfants, les jeunes adultes, soient des partenaires de la construction de la paix au Liban. Eh bien, voilà qu'en même temps, il voit bien que c'est très difficile. La dévaluation fait que la situation sociale est extrêmement difficile. Je n'ai vu que des pompes à essence avec des fils et des fils et des fils de voitures qui attendaient pour avoir de l'essence. Le pouvoir d'achat est vraiment très très maigre. Et donc ça, c'est quand même une question pour faire vivre une famille. Donc quand on regarde les choses de façon concrète, s'il n'y a pas, j'allais dire, une prise de conscience politique avec les pays qui sont autour, l'enjeu est phénoménal pour l'avenir du Liban.
Corruption, chômage, pauvreté, la situation est de plus en plus sombre au Liban. Avez-vous, malgré tout, perçu à travers vos rencontres un peu de lumière?
Oui, tout à fait. Moi, je suis frappé par, d'abord, la joie de vivre, malgré des conditions extrêmes. Il faut voir ce qu'ils ont vécu. Et en même temps, une espérance, contre toute espérance, j'allais dire, qui manifeste que ces chrétiens sont bien des disciples du Christ et que la communauté a une très très grande importance. Bien que les assemblées de prière, c'est essentiel et c'est ça qui fonde leur espérance. Il y a une foi vive. Alors peut-être qu'au sein même de situations difficiles, la foi peut s'exprimer et faire déplacer des montagnes. Et on sait ce que c'est au Liban que les montagnes.
C'était le témoignage de Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, qui s'est rendu au Liban la semaine dernière. Il était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous à 13h pour un prochain point sur l'actualité vaticane, religieuse et internationale en français. Très belle matinée, au revoir.